Que se passe-t-il donc dans le réseau Biocoop? Des conflits sociaux ont éclaté dans plusieurs régions de France et ils semblent révélateurs d'un malaise plus profond. Bonjour Anne-Laure Choin.
Bonjour.
Vous allez nous expliquer en quoi ce réseau fait face en fait à une crise de croissance. Et puis nous recevrons Olivier Tesquet, spécialiste des questions numériques à Télérama. Bonjour également.
Bonjour.
Alors avec vous, nous reviendrons sur la folle semaine des réseaux sociaux. D'un côté, une grande purge a été engagée contre Donald Trump et ses soutiens. Et de l'autre, WhatsApp souhaite partager ses données avec Facebook. Vous nous expliquerez donc comment on en est arrivé là.
France Inter. Secret d'info. Jacques Monin.
Quand on a créé notre bio, il y a plus de 30 ans, on nous a dit que la norme, c'était d'avoir un patron qui décide. On a préféré être une coopérative où chacun a son mot à dire. Producteur, salarié, consommateur.
On nous a dit qu'il fallait casser les prix des producteurs. On a préféré décider ensemble du prix le plus juste.
On dit encore qu'il est normal de vendre de l'eau en bouteille plastique. On a décidé d'en arrêter la vente, même si c'était notre produit le plus vendu.
Voilà, ça c'est un spot publicitaire conçu pour Biocoop qu'on peut trouver sur Internet. Alors à l'entendre, l'histoire de ce réseau de magasins de produits bio a de quoi faire rêver. Et pourtant, depuis peu, eh bien, certains salariés, eux, se plaignent des méthodes de management employées par leur direction. Des mouvements sociaux ont éclaté ça et là. Bref, il semble que derrière cette belle histoire, Anne-Laure Choin, eh bien, la vitrine se fissure un peu.
Oui, on peut le voir notamment dans la capitale, où des salariés de plusieurs magasins Biocoop du centre de Paris ont entamé une grève en juillet dernier pour réclamer de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaire. Un mouvement qui s'est soldé par le licenciement de la majorité des salariés grévistes et qui a mis en lumière une ambiance très pesante au sein de ces magasins, comme en témoigne cette ex-salariée de cette Biocoop parisienne.
Moi, ma directrice de magasin, elle a mis un blâme à un de mes collègues du rayon fruits et légumes pour avoir mangé une cerise, un avertissement pour avoir mangé une galette de riz périmée en déstock, c'est-à-dire que c'est même plus dans les stocks du magasin. Mais voilà, beaucoup de choses comme ça, des petites choses du quotidien. On sent aussi en fait une déconnexion profonde entre nous, les travailleurs du terrain, et plus, on va dire, les cadres, les agents de maîtrise qui sont dans leur bureau toute la journée et qui regardent les caméras.
Oui, donc lui fait état d'une ambiance qui se serait dégradée. Mais on a vraiment sanctionné un employé parce qu'il mangeait une galette périmée?
Alors la direction le confirme, mais selon la gérante du magasin, Catherine Chalom, ça s'inscrivait dans un contexte.
Le salarié concerné a été surpris en train d'utiliser son téléphone portable à deux reprises en caisse le même jour et également a été surpris en train de manger pendant son temps de travail en plus des pauses que nous lui avions accordées. C'est pour ça qu'il a été sanctionné.
Oui, donc elle justifie sa décision. Et pourtant, ce malaise que nous a décrit le salarié, le premier qu'on a entendu, Anne-Laure, il semble qu'il n'y ait pas qu'à Paris qu'on le ressente.
Non, à Strasbourg, c'est aussi le cas. Là-bas, plusieurs salariés ont fini par faire appel à un syndicat pour tenter d'apaiser une situation qui s'était fortement tendue. En cause, le sentiment d'être surveillé par vidéo, mais aussi un manque de formation pour les nouveaux arrivants, souvent des étudiants qui trouvent là un emploi de complément. C'est le cas de Valentine, qui a commencé sa mission sur les chapeaux de roue, mais qui dit n'avoir pas trouvé de formation réellement adaptée.
Je suis arrivée, en fait c'est donc mes collègues qui avaient deux semaines ou une semaine d'ancienneté de plus que moi qui ont commencé à me former, et j'ai commencé à faire du vrac. C'est-à-dire à porter des sacs de 25 kilos de sucre sans vraiment de matériel approprié. C'est-à-dire qu'en fait au bout de 4 mois j'ai eu une tendinite. Ce qui est normal en fait, parce qu'on sollicite déjà les chambres froides, enfin voilà, il y a plein de manipulations même, en hauteur en fait, de trucs très lourds, et je sais pas comment utiliser mon corps comme ça en fait.
Ouais, donc elle estime qu'on l'a laissé se débrouiller toute seule, et la direction de ce magasin strasbourgeois, Anne-Laure, elle, comment elle justifie ça?
Alors elle réfute ses arguments, le directeur du magasin nous a envoyé un mail dans lequel il s'explique, il reconnaît que certaines formations sont en effet assurées par des collègues du magasin, mais d'autres non. Nous avons fait lire ce qu'il nous a écrit.
Il est faux de parler de formation inexistante. Le référent frais a été formé en interne, la responsable fruits et légumes a été formée en interne. En plus des formations en interne, nous avons eu deux sessions de formation sur l'univers du bio. Nous avons également organisé une formation sur les gestes et postures et une autre sur le service du fromage qui ont malheureusement dû être reportées pour cause de Covid.
Ouais, donc le Covid aurait aussi joué un rôle dans cette histoire. Bon, maintenant ces malaises que vous avez pu identifier à Paris ou à Strasbourg et ailleurs d'ailleurs, Anne-Laure, est-ce que ce sont des cas particuliers ou bien est-ce qu'ils révèlent quelque chose de plus profond ?
Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que Biocoop compte 678 magasins aujourd'hui et plusieurs milliers de salariés et que chaque magasin a une marge d'autonomie dans sa gestion, donc on ne peut évidemment pas généraliser.
Ouais, c'est d'ailleurs là-dessus qu'insiste la direction générale de Biocoop.
Oui, dans un mail qu'elle nous a adressé, elle considère effectivement que ce sont des cas isolés qui restent minoritaires. Maintenant, ce qu'on peut quand même observer, c'est que la galaxie Biocoop s'est beaucoup transformée ces dernières années et que cette transformation a parfois suscité des tensions.
C'est-à-dire ?
Eh bien, lorsqu'on parle avec ces salariés, on se rend compte qu'il existe une forme de nostalgie d'une époque révolue. Stéphanie, par exemple, elle est venue du réseau Carrefour. Elle a ensuite été embauchée en 2016 comme chef d'un magasin Biocoop de Mayenne et elle évoque ses débuts comme une sorte d'âge d'or fait de salariés motivés et de conditions de travail idéales.
J'avais dans mes équipes un ancien boulanger, une ancienne religieuse, un ancien agriculteur. Enfin, j'avais vraiment des profils très différents, qui venaient pas du tout de commerce. Mais alors, par contre, ils avaient quand même une particularité, c'est qu'ils étaient, ils connaissaient les produits, tout l'environnement du bio. C'était vraiment impressionnant. Ils m'ont tout appris. Les salariés avaient le droit à un week-end sur deux et deux jours de repos consécutifs. Ça faisait partie des accords d'entreprise, des super accords. Hein. Donc, ils ont soit samedi, dimanche, et la semaine suivante, ils ont dimanche, lundi.
Ouais, donc si on l'écoute, c'était vraiment mieux avant. Mais alors, pourquoi ça a changé ?
Eh bien, d'abord, Biocoop a connu une croissance exceptionnelle, hein, une hausse de 14,5% de son chiffre d'affaires l'année dernière. Et son développement a été assez spectaculaire, lui aussi. Le nombre de magasins a doublé en 5 ans seulement.
Ouais, effectivement, ça n'est pas rien, sauf qu'en se développant, bien, le réseau s'est aussi transformé.
Oui, avec cette croissance, la structure originelle du réseau a dû évoluer, elle aussi. On est ainsi passé d'une culture coopérative où le consommateur était au centre du fonctionnement du réseau à une culture de rentabilité. C'est ce qu'explique le député européen Claude Gruffa, qui a lui-même été président de Biocoop de 2004 à 2019.
Quand on a créé l'association Biocoop en 86, c'était que des coopératives de consommateurs. Ensuite, ces mêmes coopératives de consommateurs ont souhaité ouvrir les statuts juridiques au SARL familial, la possibilité d'ouvrir des magasins Biocoop. Et aujourd'hui, on a autour de 25%, je pense qu'on a un peu moins d'un tiers, des magasins qui sont encore à statut coopératif. Il y a longtemps qu'on ne crée plus de coopératives de consommateurs. Ça, c'était un mouvement sociétal des années 80. Et puis, depuis les années 90-2000, on ne crée que des SCOP ou des SARL familiales pour le développement des magasins.
Oui, qui dit abandon de ces coopératives de consommateurs, dit aussi changement des pratiques de l'entreprise.
Oui, et l'un de ces changements qu'on peut identifier, c'est un éloignement croissant entre les producteurs, donc les agriculteurs, et les magasins qui vendent leurs produits. Avant, il n'était pas rare que ce soit des agriculteurs bio qui soient à la tête des magasins Biocoop. Mais comme le déplore Claude Gruffa lui-même, ce temps-là est bien fini.
Les militants du début qui créaient les magasins, c'était des gens qui étaient beaucoup plus en lien avec l'agriculture que maintenant. Ce qu'on a perdu, c'est des porteurs de projets, des gens qui arrivent avec une vraie connaissance de l'agriculture et d'avoir travaillé dans l'agriculture.
Et cette perte-là, Anne-Laure, les agriculteurs, ils en disent quoi ?
Alors là encore, difficile de généraliser, mais François Dessex, par exemple, le regrette. Lui, il s'est installé comme maraîcher près de Montpellier, après avoir travaillé plusieurs années en tant que salarié d'un magasin Biocoop dans la même région. Et depuis qu'il s'est installé à la ferme, aucun acheteur ni vendeur n'est venu le voir dans son exploitation.
J'ai fait pendant 2 ans de la production maraîchère et c'est vrai que durant ces 2 ans, malgré donc mon passif de 8 années autour de Biocoop, personne n'est venu sur mon terrain. Il y a un lien qui s'est décousu entre la production et les magasins. Et quand on passe de l'autre côté, côté maraîchage, le réseau n'est pas mieux vu ou pas moins bien vu que n'importe quel réseau spécialisé, quoi. Pas des prix plus hauts et ils ne pratiquent pas non plus des visites régulières qui permettent de savoir comment se passe la production, quoi.
Ouais, donc l'évolution de Biocoop a eu des conséquences sur ses relations avec les producteurs, mais apparemment ça a aussi changé la façon de fonctionner des magasins.
Oui, c'est en tout cas ce que raconte Charlotte, par exemple. Elle a travaillé quelques années dans un Biocoop de Mayenne, en charge des fruits et légumes. Elle aussi, elle décrit ses premières années comme riches d'enseignements avant de passer à des tâches plus standardisées.
J'ai appris énormément de choses sur l'agriculture bio, sur les saisonnalités en fruits et légumes, c'était super. Et finalement, en quelques mois, on nous a fait comprendre que non, on n'avait pas à apprendre tout ça. Nous, notre métier de base, c'était de mettre en rayon. Disons qu'on nous a donné un énorme gâteau quand on arrivait et qu'au fur et à mesure, on nous a réduit le dessert. On n'avait plus grand-chose. Notre métier, c'était seulement venir obéir aux ordres et mettre en rayon.
Oui, mettre en rayon et dans des rayons qui apparemment se ressemblent de plus en plus.
Oui, alors ça, c'est ce que raconte Stéphanie, l'ex-manager chez Biocoop en Mayenne.
On a bouleversé toutes les habitudes des salariés pour que tout soit stéréotypé et surtout que d'un magasin à l'autre, à l'époque il y en avait 3, maintenant il y en a 4 en Mayenne, il fallait que tous les produits qui sont dans un magasin soient présents dans l'autre magasin, tout devait être stéréotypé.
On entend bien qu'elle n'approuve pas donc cette évolution. Maintenant, Anne-Laure, tout n'est pas noir non plus. Travailler chez Biocoop, c'est quand même mieux payé que dans la grande distribution, non ?
Alors, sur le papier, oui. Quand on est embauché à Biocoop, c'est souvent en CDI. Et le salaire minimum est au SMIC, plus 10%. Donc, c'est effectivement plus avantageux. Mais ce qu'on m'a expliqué, c'est que certains avantages dont pouvaient bénéficier les salariés ont peu à peu disparu de la charte sociale de Biocoop. Il y avait, par exemple, une série d'augmentations qui étaient prévues en fonction de l'évolution des compétences. Et cet ancien employé de Biocoop à Paris affirme qu'elles ont été supprimées.
La plupart des salariés pouvaient aspirer à être considérés comme autonomes, voire experts. Et ces grilles salariales, tout simplement, elles nous permettaient d'avoir 5% d'augmentation de salaire par échelon. Donc autonome, 5%, expert, 5% en plus. Donc ça faisait à terme une petite augmentation de 50 euros. Et donc rien que ça, ça a été considéré comme trop avantageux par la direction de Biocoop qui a décidé de le faire retirer en le votant. Et ça vient contrecarrer en fait cette image qui serait que Biocoop serait un réseau démocratique où chacun est partie prenante sur les conditions de travail des producteurs, des salariés.
Mais c'est pourtant bien le cas, Anne-Laure, non ? Biocoop, c'est une coopérative, donc toutes les voix sont censées compter, y compris celle des salariés.
Là encore, oui, mais en pratique, apparemment, c'est moins évident. Écoutez, à ce sujet, Tad Demir, il a fait un master de recherche sur le réseau Biocoop, en même temps qu'il travaillait comme salarié dans plusieurs magasins parisiens. Eh bien, il s'est aperçu que le poids des salariés avait baissé, et on s'en rend compte notamment lors du congrès de Biocoop qui a lieu tous les 2 ans.
Dans ces congrès, une personne égale une voix. Pour le coup, c'est très démocratique. Sachant qu'il y a dans le réseau plus de salariés qu'il y a de gérants, on pourrait s'attendre à ces statuts soient plutôt généreux, on va dire, pour les salariés. Alors qu'en fait, il n'en est rien. Parce que pour participer au congrès, vous n'avez pas un jour que vous pouvez poser spécialement pour ce jour de congrès. Il faut que vous posiez des jours de congé. Donc que vous preniez encore une fois du temps personnel pour aller au congrès, et il faut que ce jour de congé soit accepté par votre gérant. C'est-à-dire que votre gérant peut très bien mettre son veto.
Et si vous n'êtes pas présent, eh bien vous ne votez pas.
Et y a-t-il un rapport de cause à effet ? En tout cas, il semble, Anne-Laure, que ces dernières années, le turnover se soit accéléré.
Oui, à Strasbourg par exemple, les employés les plus anciens n'ont qu'un an d'ancienneté. Et en Mayenne, la chef de magasin la plus ancienne n'était là que depuis 4 ans, avant de s'en aller elle aussi. Écoutez, Charlotte, elle évoque à nouveau la situation dans ce département.
En 2018, il me semble que le turnover était un peu plus de 40%. Et en 2019, plus de 50%. C'est énorme. Ça veut dire qu'en 2 ans, ils ont quasiment renouvelé toutes les équipes. Et ça, c'est ce que je retrouve aussi dans d'autres magasins Biocoop sur le territoire.
Effectivement, ça paraît énorme, mais ces chiffres, Anne-Laure, sont contestés par la direction.
Oui, Gilles Baucher, le directeur réseau de Biocoop, lui, évoque un sondage qui a été réalisé et qui donne des chiffres très différents.
Il y a peut-être 1-2 magasins où il y a du turnover plus significatif, mais au global, et c'est, je pense, ça qui intéresse vos auditeurs, notre turnover est faible et il tourne autour de 10% en province et autour de 15, enfin en région, et autour de 10-15% en région parisienne.
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas que des salariés qui quittent le réseau. Le président d'un magasin assez emblématique d'ailleurs, lui aussi, a décidé de reprendre sa liberté.
Oui, il est à la tête d'un des magasins fondateurs du réseau dans les années 80. C'est le Biocoop Sonnenblum de Colmar, dont les statues ont d'ailleurs servi de référence pour la création de ceux de Biocoop. En septembre dernier, les coopérateurs de ce magasin l'ont élu président et ils ont décidé de quitter le réseau national.
Mais pourquoi précisément ?
Eh bien, pour des raisons qui rejoignent celles qu'on a développées jusqu'à présent. Écoutez-le, François Collin, le président de ce magasin, considère que Biocoop a perdu son âme coopérative.
En 1981-85, un certain nombre de coopératives assez petites ont mis en place un réseau d'achat, comme une plateforme d'achat pour eux, avoir des prix, etc. On était vraiment dans la coopération et tout le reste. En 2014, il y a eu donc des modifications où la Biocoop, on sent qu'ils se sont structurés et chaque coopérateur avait donc à resigner les statuts d'un engagement pour 3 années. Donc il y avait 3 pages de statut. Et quand on lit ça, on sent très bien que les coopératives ne sont plus du tout la majorité des sociétaires, mais qu'on a des magasins, des supermarchés, tout au profit et à l'avantage de la structure Biocoop SA. C'était un peu le créateur se faisait bouffer par la créature.
Le créateur se fait bouffer par la créature. Il y va pas un peu fort, là, quand même?
Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'il le voit. Et effectivement, tous ne partagent pas cette analyse. Pour l'ancien président de Biocoop SA, Claude Gruffat, ces crises sociales sont normales. Elles seraient le revers de la médaille de la croissance. Il a fallu s'adapter à une nouvelle donne et cela provoque forcément des tensions.
Toute entreprise qui vit du développement se confronte à un moment ou à un autre à une crise sociale liée à ce développement. Donc on a eu dans les magasins des crises sociales parce qu'on a des gérants qui n'ont pas vu venir un certain nombre de choses, qui n'ont pas su prendre les choses et ça s'est envenimé. Et il y a différentes sorties à ça. Soit il y a un accompagnement accepté de la part de la gérance, donc ça fonctionne et ces magasins retrouvent une marche sereine. Ou alors on a des crises qui sont venues, mais qui ont du mal à trouver une sortie sereine. Et pour certains d'entre eux, ça a fini par une exclusion du réseau. Des fois, un changement de gérance, ça arrive aussi.
France Inter. Secret d'info, Jacques Monin.
Alors, on va avancer un peu, Anne-Laure Chouin. Vous nous avez expliqué que Biocoop vit une crise de croissance. Mais pourquoi le réseau s'est-il autant développé ces dernières années?
Eh bien, parce que le bio génère de l'argent, beaucoup d'argent. En 2019, il a enregistré une croissance de 13% pour un marché de 12 milliards d'euros. Les Français consacrent en moyenne 6,5% de leurs achats alimentaires aux produits bio. C'était moitié moins il y a 5 ans de cela.
Mais on pourrait justement se dire que puisque ça marche, on devrait être dans une dynamique positive et donc moins sous tension, non ?
Oui, sauf que le développement de Biocoop se déroule dans le cadre d'une impitoyable guerre du bio. Ce marché est si juteux qu'il attise les convoitises de la grande distribution et Biocoop est donc attaqué par les grandes surfaces. Écoutez Camille Harel, qui est chef de la rubrique bio pour LSA, un journal spécialisé dans la distribution.
La grande distribution, ils opèrent sur le bio de deux manières. D'un, ils mettent de plus en plus de références bio dans leurs magasins conventionnels classiques. Et éventuellement, ils développent des chaînes de magasins spécialistes. On l'a vu avec Carrefour, qui a monté une chaîne qui s'appelle Carrefour Bio, qui a racheté le site internet Greenwiz en 2016, mais également une enseigne régionale qui s'appelle Sobio en 2019. Intermarché, de son côté, a pris une participation minoritaire dans une enseigne spécialiste qui s'appelle les comptoirs de la bio en 2018. Leclerc a monté un concept qui s'appelle le marché bio. Naturalia fait partie d'une filiale de Monoprix. Donc oui, clairement, il y a quand même un effet un petit peu de concentration et de structuration de ce marché.
Ouais, donc la lutte est féroce avec la grande distribution, mais Biocoop est aussi concurrencé par des acteurs beaucoup plus petits.
Oui, très petits même, parce que le bio c'est aussi le terrain de jeu des réseaux alternatifs, des petites associations bio, dont les consommateurs sont de plus en plus friands. Et là aussi, la concurrence est rude. C'est ce que remarque Pascal Glémin, chercheur en économie sociale et solidaire à l'Université de Rennes.
Il y a aussi la montée des circuits courts et de la vente aux producteurs qui sont venus aussi court-circuiter le modèle d'approvisionnement et de distribution de ces coopératives de consommateurs qui font qu'effectivement leur environnement économique est de plus en plus complexe. Les consommateurs ne font pas forcément la distinction entre eux et les nouveaux arrivants. Donc effectivement, il y a des tensions économiques qui sont fortes et qui peut-être peuvent expliquer pour partie la mise entre parenthèses des valeurs et des principes de l'économie sociale et solidaire, que ce soit les associations ou les fondations.
Et c'est donc tout ça qui expliquerait que Biocoop fasse évoluer son management. Et on observe d'ailleurs maintenant une certaine porosité, Anne-Laure, entre Biocoop et la grande distribution.
Oui, on recrute désormais chez celles qu'on appelle les GMS, les grandes et moyennes surfaces. Et c'est là qu'on va chercher les nouveaux dirigeants de Biocoop et ça, comme ceux des magasins d'ailleurs. C'est ce que relève Camille Harel de LSA Magazine.
Chez Biocoop, il y a toujours eu un son de cloche très clair, c'est que le président avait toujours indiqué qu'il voulait intégrer des talents de la GMS. Il n'y a pas de restriction, quoi. Le nouveau directeur général de Biocoop est un ancien de chez Carrefour, qui est arrivé en octobre dernier, mais en même temps, le patron de Carrefour Bio est l'ancien directeur général de la Vie Claire.
Oui, donc les deux cultures se rejoignent. Maintenant, certains font une autre lecture de ce qui est en train de se passer.
Oui, on peut se dire que les anciens de la grande distribution viennent au bio pour y importer leurs méthodes, mais l'ex-président de Biocoop pense, lui, que c'est l'inverse qui se passe. Claude Gruffat estime au contraire que c'est parce qu'ils en ont assez des méthodes des grandes surfaces que certains managers rejoignent Biocoop.
Quand j'étais aux affaires chez Biocoop, souvent on me disait « Oui, mais on prend des gens qui sont trop de la grande distribution, qui sont trop de ces réseaux-là. » Moi, ma réaction, c'est « On est très fiers de convertir des terres en bio chez Biocoop. Pourquoi on serait pas fiers de convertir des hommes et des femmes ?» C'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent de ces horizons-là, qui ont acquis de l'expérience dans ces horizons-là et qui viennent chez Biocoop pour contribuer au projet Biocoop, ils y viennent pas pour faire de la grande distribution chez Biocoop. Ils y viennent justement pour changer dans un état d'esprit de dire « je vais aller travailler quelque part où ça a plus de sens ». Et évidemment, j'y vais pour développer ce sens.
Ouais, développer ce sens. Et c'est peut-être d'ailleurs en fait là que se trouve la clé qui explique ce qui se passe, ce qu'on a identifié au début de cette émission, Anne-Laure.
Oui, parce que pour tous les salariés que j'ai pu interviewer, c'est guidé par cette quête de sens, poussée par leur engagement dans les valeurs du bio, qu'ils sont venus travailler à Biocoop. Or, cette recherche de sens se retrouve parfois en conflit avec une réalité difficile, peu de temps à accorder à la discussion avec les clients, et moins de temps, on l'a vu, accordé à l'échange avec les producteurs.
Ouais, donc la situation ne serait pas forcément pire que dans d'autres secteurs de la distribution, mais on la ressentirait plus durement.
En tout cas, c'est une hypothèse. Pascale Dominique Russo est journaliste et elle a enquêté justement sur la souffrance au travail des salariés dits engagés dans le secteur de l'économie sociale et solidaire, secteur dont se réclame le réseau Biocoop. Et elle a observé que parfois, dans ces entreprises, lorsque le sens se perd, le climat social se détériore.
Je pense qu'il y a dans ces associations, de la part des employeurs, une volonté de ne pas voir la question managériale comme une question importante, la question des ressources humaines comme une question importante. Pourquoi ? On aime bien finalement que les salariés soient engagés, lesquels le sont parce qu'ils ont souvent investi ce travail comme un travail d'engagement, un travail qui a du sens. Donc ils se retrouvent coincé, comme l'expliquait un syndicaliste de France Terre d'Asile que j'ai rencontré, il me parlait d'une forme de servitude volontaire. Une servitude volontaire qui les dessert. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que beaucoup s'en vont.
Voilà, cela dit, les choses bougent. Certaines coopératives du réseau, elles, ont fait le choix d'une démarche active de qualité de vie au travail. C'est le cas du côté de Nantes, notamment. Et la direction du réseau a décidé d'imposer des formations au bio à partir de cette année.
Tous ces magasins Biocoop donc confrontés à sa crise de croissance. C'était votre enquête, Anne-Laure Choin. Merci. Alors, je précise que votre enquête, on peut la réécouter, on peut la lire, on peut la podcaster sur franceinter.fr et sur l'appli France Inter. Inter. Vous pouvez aussi nous laisser vos commentaires sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France ou encore sur Twitter, Investigation RF. Mais surtout, restez avec nous. Les réseaux sociaux ont-ils pris trop de pouvoir, que ce soit dans le débat démocratique ou dans notre vie privée? On en parle dans quelques instants avec notre invité. We never close, I'm open day and night. I know my way around, I walk towards the light. I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Left from right, because we never close, I'm open day and night. Ooh, oh, oh yeah, oh Il a fait ça tout seul, les paroles, la musique, les voix, et il joue de tous les instruments. Ça s'appelle Find My Way, et c'est extrait du dernier album de Paul McCartney.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Olivier Tesquet, spécialiste des questions numériques à Télérama. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, on va revenir sur la purge qu'a mise en place Twitter, suppression du compte de Donald Trump, de 70 000 comptes liés à ses supporters cette semaine. Idem pour Google qui a suspendu sa chaîne YouTube. Alors, on va essayer de comprendre en fait aujourd'hui comment on en est arrivé là. Alors, peut-être faut revenir à l'origine. Twitter, c'est quoi? Ça part d'où? Qui est derrière?
Alors Twitter, c'est un réseau social qui est monté en 2006 aux États-Unis avec cette promesse tout de suite d'être le réseau social vraiment de l'instantanéité. C'est-à-dire, pendant longtemps, on pouvait écrire ses micro-messages en 140 caractères. Ensuite, ça a été doublé, hein, c'est devenu 280. Et très vite, en fait, Twitter est devenu le lieu de la parole publique, de la parole politique, de la parole...
Mais qui crée ça au départ?
Alors, Twitter est créé par des entrepreneurs de la Silicon Valley, comme il en existe beaucoup d'autres. La différence avec un Facebook, par exemple, c'est que aujourd'hui, Facebook est toujours dirigé par Mark Zuckerberg, qui a créé ça dans sa chambre d'étudiant à Harvard. Là où Twitter a été monté par un certain nombre d'entrepreneurs, BizStone, par exemple, qui ont quitté l'entreprise. Et aujourd'hui, Twitter est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Jack Dorsey, et qui doit rendre des comptes des actionnaires. Et la différence aussi avec un Facebook, par exemple, c'est que Twitter ne gagne pas d'argent. Donc aujourd'hui, il y a aussi une pression très très forte à faire grandir la communauté, à accroître le nombre d'utilisateurs, qui est bien moindre hein, par rapport au nombre d'utilisateurs de Facebook. Là aussi, hein, sur Facebook, on parle de plus de 2 milliards de personnes sur Twitter. On a entre 300 et 400 millions, on va dire. Et donc, comme il y a toujours eu ce besoin de croissance assez exponentielle, Twitter est devenu le lieu de la parole publique, politique et médiatique.
On va y venir. Quand vous dites qu'il ne gagne pas d'argent, c'est quoi son modèle ?
Eh ben justement, le problème de Twitter aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas vraiment de modèle économique. Ils n'ont pas pu devenir comme un Facebook ou un Google, une régie publicitaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le modèle économique de ces géants-là, pour ne citer qu'eux, c'est d'être d'immenses régies publicitaires. Donc d'aspirer quantité de données sur
de
nous.
De faire apparaître de la publicité
et ensuite
sur
de vendre des espaces publicitaires à toutes sortes d'acteurs et donc à partir de là, à monopoliser vraiment le marché de la publicité en ligne. Ce qui n'est pas le modèle de Twitter. Et donc, ça fait des années qu'il cherche un peu, justement, à trouver la bonne formule, ce qui a d'ailleurs fragilisé à de nombreuses reprises la position de Jack Dorsey, le patron de Twitter, qui est passé plusieurs fois près de la sortie. En plus, il a une personnalité assez particulière, il part faire des retraites de yoga vipassana pendant des semaines. Enfin voilà, c'est un vrai personnage.
C'est assez classique chez les GAFA, ça.
Alors c'est effectivement aussi un personnage très emblématique de la Silicon Valley, quoi. C'est-à-dire qu'il se laisse parfois pousser une barbe énorme, il a un piercing dans le nez, donc il cultive un côté un peu contre-culture comme ça, tout en étant parfaitement emblématique de ce qu'est aussi l'économie des startups et de la Silicon Valley.
Alors parlons du fond maintenant et de ce qu'est devenu effectivement Twitter, vous le disiez, c'est devenu le lieu de la parole publique et même nous d'ailleurs les journalistes, on en a accepté les codes puisque sur nos propres articles maintenant, plutôt que de citer comme on le faisait des communiqués ou des extraits de phrases, on publie in extenso les tweets.
En fait, c'est là où s'est concentré effectivement toute cette parole public tel qu'on la connaissait avant à la télévision par exemple ou effectivement dans les communiqués de presse etc. Et donc au fil des années Twitter est devenu ce lieu inévitable pour les journalistes, pour les personnalités politiques, pour les personnalités du monde du spectacle, du show business, on appelle ça comme on veut, mais c'est devenu le lieu effectivement où on prend la parole en public avec toutes les conséquences, y compris les conséquences néfastes que ça peut impliquer.
Oui, parce que ça pose une question démocratique aujourd'hui, on se rend compte. Alors on peut considérer que finalement d'avoir viré Trump du réseau, c'est salutaire. Bon, chacun peut penser ce qu'il veut. Mais c'est aussi révélateur du fait qu'un opérateur privé aujourd'hui, sur la base de sa seule décision, peut vous exclure du débat public.
Alors, c'est vrai, et c'est particulièrement intéressant sur Twitter, parce que, à la différence du débat sur Facebook, par exemple, Facebook, il y a deux aspects. Il y a vraiment l'aspect un peu police privée, hein, et puis il y a évidemment le côté antitrust, faut-il les démanteler, parce que ce sont des puissances économiques gigantesques. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, de Twitter. Donc Twitter, c'est une question purement politique, c'est de savoir est-ce qu'on estime qu'une entreprise privée devrait faire valoir ses conditions générales d'utilisation plutôt que le droit tel qu'il a été édicté par le législateur,
le juge.
Alors je note quand même là-dessus une forme d'hypocrisie des gouvernements parce que on a vu tout un tas de responsables politiques français ou étrangers. Je pense à Angela Merkel par exemple qui ces derniers jours se sont émus de ce bannissement de Trump en se disant si ça lui arrive à lui ça pourrait nous arriver à nous et puis pourquoi Trump et pourquoi pas Erdogan ou donc effectivement il y a un côté discrétionnaire, mais il faut aussi voir que depuis des années, la puissance publique, et notamment en Europe, a renforcé considérablement le pouvoir des plateformes en leur octroyant un droit de police privée et de cours de justice privée, en leur disant, au nom de la lutte antiterroriste, vous devez censurer les contenus de plus en plus rapidement. Et donc, on sent, à travers cet exemple, une volonté des gouvernements, un peu de par le monde, de reprendre la main et de dire aux plateformes, force revient à la loi, et c'est la loi qui doit primer sur les conditions générales d'utilisation des plateformes.
Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas Facebook, si vous n'avez pas YouTube, si vous n'existez pas.
Et à fortiori quand vous êtes une personnalité politique. C'est-à-dire qu'on peut aussi se poser la question de pourquoi Twitter et les autres réseaux sociaux, les autres plateformes, ont décidé de bannir Trump maintenant. Pourquoi elles bannissent Trump et pas un autre? Et aujourd'hui, il n'y a pas non plus une transparence immense de la part de ces plateformes pour justifier leurs décisions.
Alors un mot aussi de l'autre actualité de la semaine. Les réseaux sociaux étaient très présents avec cette nouvelle politique de WhatsApp qui donc demande l'autorisation à ses utilisateurs de partager ses données avec Facebook. Alors, quelles conséquences ça va avoir? Et là, faut séparer les choses selon qu'on est européen ou pas européen.
Donc effectivement, WhatsApp a été racheté par Facebook. Et là, il a été annoncé que désormais, les données de WhatsApp seraient exploitées de la même façon finalement que les autres données de Facebook. Alors, effectivement, en Europe, il y a cette chose qu'on appelle le RGPD, donc le Règlement Général sur la Protection des Données, qui est entré en vigueur en mai 2019 et qui protège davantage les communications.
C'est-à-dire
les...
que WhatsApp ne pourra pas, par exemple, communiquer notre numéro de téléphone portable à Facebook.
Voilà, il y a un certain nombre d'informations qui sont protégées pour les utilisateurs européens. Après, une fois qu'on a dit ça, on observe, et c'est assez intéressant, là, depuis quelques jours, une migration assez massive
vers d'autres messageries
qui sont plus protégées. Qui sont des messageries chiffrées, plus protectrices de la vie privée.
Mais pour les Américains, donc, qu'est-ce que ça veut dire ?
Ah, pour les Américains, ça veut dire que Facebook va pas s'amuser à venir regarder dans les conversations pour savoir exactement ce qu'il s'y dit. Par contre, il récupère toutes les métadonnées, donc un peu tout ce qu'il y a sur l'enveloppe, et à partir de là, peut l'utiliser à des fins de ciblage publicitaire. Évidemment, c'est croisé avec toutes les autres informations, et Dieu sait qu'il y en a, qui sont glanées par Facebook quotidiennement sur ses utilisateurs.
Mais là aussi, ça peut donner le sentiment qu'on est prisonnier d'un écosystème qui s'auto-alimente, et là encore, tout cet écosystème fait qu'on est piégé, prisonnier, parce qu'on n'a plus d'autres solutions aujourd'hui pour communiquer.
Bah, ça devient très difficile de s'en sortir, parce qu'effectivement, ça crée une forme de continuum, comme ça, où quel que soit l'endroit où on va sur Internet, ces petits morceaux de nous, d'informations intimes qu'on sème quotidiennement sur les réseaux sociaux, sont ensuite exploités à des fins commerciales par ces grandes plateformes. Et c'est vrai que quand on voit ces migrations vers des messageries chiffrées, parfois ça peut sembler un peu dérisoire. C'est pas tout à fait comme ça non plus qu'on réussit à reprendre le contrôle et à rétablir un peu, enfin au moins dans de certaines proportions, le rapport de force entre nous et ces immenses plateformes monopolistiques.
Bien, merci Olivier Tesquet. Voilà notre sujet de réflexion pour le week-end. Alors j'en profite d'ailleurs pour annoncer que vous publierez le 4 février un livre qui est consacré à un autre sujet, mais ça reste numérique. État d'urgence technologique, c'est son titre. Comment l'économie de la surveillance tire parti de la pandémie. C'est la fin de Secret d'Info, une émission préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. La programmation musicale était signée Jean-Baptiste Audibert. Et à la technique, il y avait Ludovic Asselot et Patrick Henry. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.